Réplique, la fabrique du dictionnaire, avec Géraldine Moinard et Bernard Cerchilini. Dans sa préface à la dernière édition du Petit Larousse, Bernard Cerchilini écrit « On entre au Petit Larousse comme on accède à l'Académie, dans la solennité et l'émotion après un aimable pugilat. Qu'un mot nouveau soit accepté rue de Montparnasse, qu'on reçoive un écrivain qui est Conti, ces mêmes consécrations reconnaissant une contribution éminente à la langue française, même privilège rare, est pesé au trébuchet. Ce qui est vrai du Petit Larousse l'est aussi du Petit Robert, dont Géraldine Moinard dirige la rédaction. Chaque année donc, il y a d'heureux élus. Avant d'entrer dans le détail, je voudrais demander à mes deux invités quels critères président à cette élection, Géraldine Moinard.
Trois critères principaux. La fréquence, évidemment, quand un mot est extrêmement fréquent, nous allons l'examiner. On a pu prendre l'exemple de wokisme, par exemple, qu'on a entendu absolument partout. Il était donc logique que nous l'examinions pour l'entrée au Petit Robert. Nous avons des critères de diffusion. Est-ce que le mot est employé seulement par certaines personnes, par certains médias en particulier? Est-ce qu'on le retrouve dans l'usage commun, sur les réseaux sociaux par exemple, c'est aussi un indicateur. Un mot qui aurait une fréquence globale d'usage plus faible, mais qui est extrêmement diffusé, nous l'examinons également. Et puis la pérennité, est-ce qu'un mot est amené à durer? Nous ne sommes pas des Pénélopes, donc nous faisons entrer les mots quand ils sont là depuis quelques années, implantés, et qu'ils ont vocation à rester dans l'usage. Peut-être avec un petit peu plus de rapidité, c'est là une de nos différences que nos confrères et nos consoeurs de chez Larousse.
Bernard Cerchilini.
Oui, j'ai l'honneur de conseiller le Petit Larousse et de participer aux réunions de choix. Nous faisons le même travail que chez vous au Robert. Bien sûr, avec beaucoup de sagesse, de prudence, de vérification. Et aussi avec un goût pour les mots. Nous sommes les héritiers de Pierre Larousse, qui était bourguignon, qui était très gourmand de vocabulaire. Et donc, nous testons un peu les mots. Il faut qu'il soit bien réussi, ce mot. Et nous décidons que nous le prenons aussi parce qu'il va être représentatif, il va avoir la vie dure, il va prendre sa place dans le vocabulaire. Il y a donc aussi un pari lié à notre expérience et à nos intuitions sur la langue.
Bien. Alors, entrons dans le détail maintenant. Vous avez, Géraldine Moinard, parlé du mot « woke », qui se trouve, je l'ai vérifié, dans les deux dictionnaires, « woke » et « wokisme ». Le Larousse définit le wokisme en un courant de pensée dénonçant toute forme d'injustice et de discrimination. Et, petite nuance, vous dites qu'il est parfois perçu comme attentatoire à l'universalité républicaine. Dans le Robert, vous dites que le wokisme est un courant de pensée d'origine américaine qui dénonce injustice et discrimination. Et le woke, c'est celui qui est conscient et offensé des injustices et des discriminations subies par les minorités qui se mobilisent pour les combattre, parfois de manière intransigeante. Le wokisme et le mot woke sont dans la langue parce que cette réalité est l'objet d'un très grand débat aujourd'hui en France. Il y a des gens, peut-être à tort, qui vous diront que le wokisme est une idéologie sectaire et épuratrice qui, par le moyen du concept d'intersectionnalité, réduit le monde à l'affrontement de deux forces, le mâle hétérosexuel blanc et toutes les victimes d'injustice et de discrimination. Donc, le wokisme, pour les gens qui pensent ainsi, et qui, peut-être à tort, est un fanatisme, un macartisme antiraciste, dont l'une des principales manifestations est la cancel culture, qui va peut-être rentrer dans le dictionnaire, puisque ce mot est très fréquemment utilisé, c'est-à-dire l'annulation des cours et des conférences données par des universitaires, des intellectuels qui pensent hors des clous. Donc, il y a un débat sur le wokisme et un débat sur la définition du wokisme. Or, vous êtes athée de le mettre, ce mot, dans le dictionnaire et d'en donner la définition quand même la plus favorable. N'est-ce pas une intervention militante et non un enregistrement de la réalité lexicale. Géraldine.
Oui, j'aimerais répondre d'abord, puisque vous avez cité la définition du petit Robert, en oubliant quand même un morceau de la définition, dans woke souvent péjoratif par dénigrement, et dans wokisme, nous précisons dès le début de la définition, anglicisme souvent péjoratif. Elle est très importante, cette notion.
Par dénigrement.
Péjoratif, par dénigrement. Le mot woke et le mot wokisme. Alors, woke est apparu en 2017. C'est un mot très difficile. Chaque locuteur donne un sens au mot qui n'est pas forcément le même pour tout le monde. Et c'est là l'une des difficultés de notre métier, trouver un sens commun ou des sens communs, puisqu'un mot peut avoir plusieurs définitions. Pour wokisme, c'est très compliqué parce qu'effectivement, ce mot véhicule beaucoup de représentations. C'est un mot qui sert d'épouvantail, mais c'est un concept. C'est un mot qui était utilisé à l'origine de manière positive par des gens qui se revendiquaient, aux États-Unis notamment, du wokisme. Aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé majoritairement par dénigrement, de façon péjorative. Comment retranscrire tout ça dans une définition très courte, un peu universelle, au sein d'un dictionnaire? Voilà, vous avez lu la solution que nous avons choisie.
Bernard Sacchinini.
Ce mot correspond à tous les critères que nous avons évoqués. Il est présent dans la presse écrite, dans les conversations, il fait l'objet d'un débat. Il est apparu en 2017, nous devions le faire entrer dans le dictionnaire. Mais dans notre optique, et donc nous l'avons défini, vous avez cité, nous définissons ce qu'est le wokisme, et nous ajoutons, ce terme est fréquemment employé par les tenants de l'universalisme républicain pour qualifier les excès relatifs au militantisme des défenseurs des minorités. C'est le maximum que peut faire un dictionnaire de langue et à vocation encyclopédique.
Vous pouvez le faire parce que vous êtes un dictionnaire encyclopédique.
Eh bien voilà, c'est la différence que nous avons. Nous disons à quoi servent les mots et à quel débat ils participent.
Voilà,
vous ne pouvez pas le faire.
Parce que nous sommes un dictionnaire essentiellement linguistique de langue et nous ne donnons pas ce genre de remarques.
Alors, un mot qui figure dans le Robert et pas dans le Larousse. Dans votre préface au Larousse, Bernard Cerchellini, vous voulez distinguer l'approche militante de la lexicographie probe. Vous dites que au Larousse, le Larousse est un observateur attentif et scrupuleux de l'usage. Bon, l'usage, mais il y a la question de l'usage et du bon usage, mais on y viendra tout à l'heure. Vous franchissez un pas, Géraldine Moinard, dans le Robert, puisque Yel y figure. Yel, pronom personnel, sujet de la troisième personne, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Yel, deux exemples. Yel se définit comme non-binaire. Deuxième exemple, les stagiaires ont reçu des documents qu'Yel doivent signer. Alors, à l'Académie française, nous avons été saisis du problème quand le mot est apparu dans le Robert en ligne. Une décision a été prise, on va protester. Et puis, on a dit, c'est pas la peine, ça ne va pas prendre. J'ai essayé de dire que si ça allait prendre, je n'ai pas été entendu. J'ai donc publié un petit article dans le Figaro, le Yel nous est-il tombé sur la tête ? Où je constatais que la notion de genre et la déconstruction des dynamiques historiques qui ont façonné au cours des siècles les diverses versions du masculin et du féminin ont fait naître l'espoir d'un monde entièrement reconstruit. L'espoir de libérer l'humanité de la condition humaine, en quelque sorte. Le donné est congédié, la part non choisie de l'existence disparaît, chacun doit pouvoir décider de soi. Et je me demandais s'il ne fallait pas opposer à cette innovation militante une ferme fin de non-recevoir. On n'entre pas dans la grammaire comme dans un magasin. La langue n'est pas là pour satisfaire, en remplaçant l'être par le ressenti, le fantasme de la toute-puissance. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu loin en définissant déjà ce mot qui est très peu employé et qui suscite quand même des critiques non négligeable, Géraldine Moinard.
Vous avez eu, Monsieur Finkielkraut, le dossier de presse avec comportant les derniers mots nouveaux entrés au petit Robert. Les connaissez-vous tous? Les employez-vous tous? Les entendez-vous tous? Je ne crois pas. Personne ne connaît tous ces mots. Ce n'est pas parce que vous, en tant que locuteur, avec la langue qui est la vôtre, vous n'employez pas ce mot, vous ne l'entendez pas, qu'il n'existe pas. Et il existe, puisqu'il existe depuis 2008, nous l'observons depuis ce moment-là. C'est un mot qui était, oui, à l'origine, employé, qui a été forgé par des milieux militants. Sur la question du genre, je ne me prononcerai pas, ce n'est pas mon sujet. Ce qui m'intéresse, ce sont les questions linguistiques. Ce mot-là, à l'origine, très peu employé, se diffuse peu à peu, lentement. Nous sommes en 2008. Nous constatons en 2020 que le mot, la fréquence d'usage de ce mot progresse de manière significative, qu'on le retrouve non plus seulement chez les milieux militants, mais qu'on le retrouve dans certains textes administratifs, qu'on le retrouve dans l'interface des réseaux sociaux, que les jeunes, les plus jeunes, et tous les plus jeunes vous le diront, plus jeunes que moi, les jeunes l'emploient, demandez, posez la question autour de vous. On le trouve également dans des traductions, puisque cette question, ce pronom non-genré qui existe pour la première et la deuxième personne en français, n'existe pas pour la troisième personne en français, c'est le cas d'autres langues, et les autres langues, d'autres langues. L'anglais s'est posé la question, le suédois, le finlandais, le finnois, l'espagnol, l'italien, toutes les langues se posent cette question. Donc on le retrouve aussi dans les traductions, c'est un mot qu'on a besoin de comprendre. Voilà ce que nous avons conclu. Et c'est pour ça, quel est le rôle du dictionnaire? Un dictionnaire d'usage comme le Robert, le petit Robert, le dictionnaire en ligne, c'est de donner le sens des mots et de permettre aux gens de les comprendre. Nier l'existence d'un mot, dire non, je ne le définis pas, je ne prépare pas le faire, ça c'est du militantisme et c'est une manière de nier aussi. Certains ont confondu un petit peu le mot et la chose, c'est-à-dire qu'en niant le mot, ils ont essayé de nier ce qu'il représentait. Ce n'est pas mon sujet.
Bernard Cerchellini.
Le mot circule en effet, et il conviendra de l'expliquer. Mais chaque année, un millier de mots pourraient rentrer au dictionnaire. Nous devons en garder 150. Nous sommes donc très attentifs aux fréquences, à la présence du mot entre plusieurs générations, à l'oral, à l'écrit. Et cette année, je dirais que nous avons mis Miel un peu de côté. Il ne correspondait pas. Pas pour nous, à l'ensemble des critères, en particulier de fréquence. Donc nous l'avons, en quelque sorte, repoussé et mis en réserve.
Mis en réserve, c'est-à-dire, vous dites, cette année, les choses, pour vous, vont peut-être changer si l'usage commence à se répandre.
Si le pronom rentre dans l'usage, s'il acquiert un pronom complément, par exemple, ou un pluriel, si les attestations sont nombreuses, eh bien, Yel rentrera au dictionnaire, car il est rentré dans l'usage.
Et peut-être un jour, j'espère vivre assez vieille, dans le dictionnaire de l'Académie française. Qui sait ? Qui peut savoir ?
Mais bien sûr, dans la prochaine édition du dictionnaire de l'Académie française.
Écoutez, tout est possible, même le pire, Géraldine Moinard. Mais moi, je ne serai pas là pour le voir, ni donc pour le ratifier, parce qu'on en est à VW aujourd'hui, bientôt là. La nouvelle édition du dictionnaire sera terminée, mais pour Yel, franchement, je n'aurai pas à en débattre. Et je le regrette, étant donné votre hâte à ratifier l'usage. Mais il y a autre chose, parce qu'on parle de Yel, donc de la question du genre. Vous félicitez Bernard Cerchellini de la féminisation de la langue. Et vous félicitez aussi de la décision, enfin sage, de l'Académie française qui a pris acte de la féminisation des noms de métiers. Alors, cela va-t-il jusqu'à l'écriture inclusive ? Pensez-vous effectivement que la langue française avait quelque chose de patriarcal, de machiste, qu'elle invisibilisait les femmes, et quand vous voyez se répandre chacune et chacun, celles et ceux, toutes et toutes, tous et tous, les candidats et les candidats, voir le point médian, pensez-vous que c'est un progrès de la cause des femmes et qu'il est bon, évidemment, d'en ratifier l'usage ? Bernard Cerchellini.
Le dictionnaire est concerné par la féminisation des noms de métiers. Beaucoup moins par le point médian ou l'emploi des parenthèses, qui est l'écriture inclusive. Pour les noms de métiers, c'est évident. Là, je me permets de vous renvoyer à mon livre « Le ministre est enceinte » où j'ai raconté les choses. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, les femmes avaient des titres de métiers féminisés. C'est le recul de la place de la femme dans la société bourgeoise au XVIIIe siècle qui a rendu fait tomber ces mots dans la désuétude. Et le féminin est devenu seulement conjugal. L'ambassadrice n'est plus que l'épouse de l'ambassadeur. Les choses ont changé, heureusement, avec l'arrivée des femmes dans ces professions, et les féminins se sont réinstallés. C'est donc plutôt, en quelque sorte, la féminisation, c'est un retour au bon fonctionnement de la langue grammaticale, sociale, lexicale.
Écrivaine, donc, c'est bien.
Mais écrivaine, non seulement c'est bien, mais le mot a fonctionné jusqu'au XVIe siècle, Christine de
Pizot. Non, c'était autrice, je crois.
Alors, il y avait écrivaine, il y avait autrice. Ce sont des mots qui ont disparu, mais qui étaient bien formés. Il n'y a aucune différence entre actrice et autrice. Et donc, les dictionnaires Robert et Larousse ont pris acte de la féminisation dans l'usage et ont systématiquement ajouter un féminin quand il manquait à l'article. Je rappelle que le dictionnaire de l'Académie française au XVIIe siècle donnait comme définition d'ambassadrice « dame envoyée en ambassade ». Dès la deuxième édition, 1718, ce n'est plus que « femme d'un ambassadeur ». Et malheureusement, dans l'édition actuelle du dictionnaire de l'Académie française, l'ambassadrice n'est que l'épouse d'un ambassadeur.
J'en référais en haut lieu. Géraldine Moinard.
Je ne peux qu'être d'accord avec ce que dit Monsieur Sarchilini, autrice, et dans le Petit Robert depuis une vingtaine d'années. La presse l'utilise depuis très longtemps et ce mot aujourd'hui est très largement employé. Je vais parler maintenant un peu de l'écriture inclusive, puisque nous parlons du dictionnaire. L'écriture inclusive pose une question intéressante. Je ne dis pas qu'elle apporte des solutions qui fonctionnent, mais elle pose une question intéressante, celle du masculin générique. Le masculin générique reste un masculin. Et donc, le cerveau, quand même, quand il voit un masculin, voit un masculin. Certaines études en psycholinguistique l'ont montré. Dans un dictionnaire, revenons simplement au dictionnaire, ce qui nous importe aussi, c'est d'être précis. L'écriture inclusive ne se limite pas au point médian, qui est effectivement complexe d'utilisation, qui peut poser des difficultés de lecture. On l'emploie, voilà, chacun est libre de l'employer ou non. Il y a d'autres procédés qui sont intéressants au sein d'un dictionnaire. Prenons l'exemple du mot « homme ». Quand on dit, dans une définition de dictionnaire, dans laquelle on a besoin d'être précis, un cheveu, par exemple, est un poil qui pousse sur le crâne de l'homme. Il y a une ambiguïté. Une ambiguïté qui est dans la langue. Est-ce que seuls les hommes de sexe masculin ont des cheveux ou est-ce que les femmes ont aussi des cheveux ? Prenons un exemple naïf. Quand on remplace « poil qui pousse sur le crâne de l'être humain », l'ambiguïté est levée. Et c'est important dans un dictionnaire qui se veut précis.
Oui, on dit aussi « tous les hommes sont mortels ». Est-ce que les femmes sont vexées ? Alors ça m'intéresse, non. Parce que vous dites, c'est le masculin. Donc, le masculin ne peut pas servir de neutre. C'est un peu ça l'idée actuelle. Hein, ça a été...
Si, il le fait. Il est à la fois... Le mot homme est ambigu, c'est ce que disait Madame Moinard. L'homme est à la fois le générique, c'est-à-dire voilà. L'homme opposé à l'animal, et l'individu de sexe mâle. Et quand on voit le mot homme... On l'interprète en général plutôt du côté du sexe mâle. Tous les travaux de psycholinguistique l'ont montré. Donc nous faisons attentif dans nos définitions à remplacer homme générique par être humain. Nous venons de faire entrer les droits de l'homme, les droits humains.
Donc ça tendrait à dire qu'il y a quelque chose un peu sexiste dans la langue, qu'il y aurait une correspondance entre le genre grammatical et le sexe biologique. Alors ça m'étonne un peu parce que on dit bien une personnalité. Une personne, une vedette, une star. Et alors, j'ai sous les yeux aussi un livre très intéressant de deux serviteurs de Louis XIV. Jean et François-Antoine, c'est paru sous le titre « Le roi se meurt » aux éditions du Cerf. Et c'est bien parce que c'est les serviteurs qui suivent l'agonie de Louis le Grand. Le Grand toujours à cheval. Hein. Et je lis cette phrase « Sa Majesté ». Se leva néanmoins en public sur les 8h30 à son ordinaire et étant habillée. Elle fut entendre la messe dans la tribune de la chapelle du château. Elle tint ensuite son conseil de finances qui dura jusqu'à 1h après-midi. Elle mangea peu. Et Massian lui a dit « Sa Majesté m'a paru dégoûtée ». Alors sinon on a le roi et là ça redevient masculin. Enfin, donc le symbole de la puissance, de la virilité est au féminin. Hein, c'est au féminin. Et est-ce que ça invisibilise les hommes ? Est-ce que ça les dévirilise ? Non, non. Alors, l'idée que les femmes puissent se sentir vengées parce qu'on dit candidates et candidats, celles et ceux, etc., et puisque le masculin n'est plus neutre, je suis très étonné. Je ne comprends pas bien cette espèce d'offensive. Et là, je vous pose une question directe qui concerne le dictionnaire. C'est-à-dire que Oser le féminisme a rendu fémage à Agnès Varda. La maire de Strasbourg a rendu fémage à Jacqueline Sauvage. C'était assez drôle parce qu'elle a quand même tué son mari violent en lui tirant dans le dos. Bon, mais elle lui a rendu fémage. De même, on emploie de plus en plus l'expression matrimoine. Fémage et matrimoine vont-ils entrer dans le dictionnaire ? Géraldine Moinard.
Eh bien, nous verrons, nous les observons ces mots, nous avons constaté qu'ils étaient employés. À ce jour, l'emploi est encore trop restreint pour qu'ils figurent dans le Petit Robert, mais nous continuons d'observer ces mots-là, et ce sont les locuteurs qui décideront oui ou non. Est-ce qu'une majorité de locuteurs va s'emparer de ces mots ? L'avenir nous le dira.
C'est ça, nous regardons les courbes, la diffusion du terme et sa réalité dans la langue orale écrite. Il n'y a pas de militantisme de notre part. Par exemple, nous avons décidé de suivre l'usage. Un exemple, pour le vocabulaire de la défense nationale, nous avons féminisé les grades au fur et à mesure qu'ils l'ont été dans la langue. Par exemple, nous avons attesté la colonelle bien avant la soldate. C'est donc dans une édition récente que soldate est apparue. L'usage est globalement fait retour à la féminisation des noms de métiers, mais avec une vitesse, une évolution que nous suivons. Il n'y a pas de militantisme, nous n'avons pas féminisé systématiquement. Ce qui nous distingue, par exemple, de nos amis québécois. Il y a dans les dictionnaires du Québec, mineur a un féminin mineuse. Il se trouve que la loi interdit aux femmes en France de descendre dans la mine. Il n'y a pas d'attestation de mineuse. Mineur n'est que au masculin dans notre dictionnaire.
Très intéressant. Bien.
Pardon. Et dans le Petit Robert.
Et dans le Petit Robert, naturellement.
Très bien. Très intéressant votre référence au Québec, Bernard Cerchellini, parce que les Québécois résistent, eux, peut-être à tort, à l'invasion non pas de l'anglais mais du globish. Or, la plupart des mots nouveaux nous viennent de l'anglais et certains d'entre eux sont, je l'ai vu, sont le streaming, le coaching, etc., sont dans vos dictionnaires. Alors peut-être que demain on aura fact-checking, peut-être qu'on aura job dating, puisque vous observez l'usage et vous avez déjà spoilé. Ouverture à l'usage, ouverture à l'autre, mais moi je dirais progrès de l'uniformisation. Et les Québécois ne veulent pas entendre parler de spoiler, donc ils ont inventé ce terme tout à fait délicieux de divulgâcher. Pourquoi ne prenez-vous pas le même type d'initiative ? Parce que cette langue, vous l'observez, mais c'est la langue française. N'est-il pas de votre rôle aussi de la transmettre ? Et donc, en la transmettant, de la défendre, Géraldine Moinard.
Mais nous la transmettons. Vous parlez de divulgâcher quand nous faisons entrer spoiler dans le dictionnaire. Parce que spoiler devient incontournable, parce qu'il est employé par énormément de locuteurs, parce qu'on le trouve partout. Parce que le verbe divulgâcher a moins d'usage. Et que, voilà, on constate, nous observons, nous sommes des observateurs, donc nous constatons que nous devons donner une définition de spoiler, ne serait-ce que pour que personne qui ne l'utilise pas le comprenne. Mais nous écrivons en français, nous donnons les recommandations officielles qui sont, en tout cas, pour spoiler, divulgâcher. Et nous le faisons systématiquement quand un mot français existe. Quand un mot anglais est un petit peu moins fréquent, nous le faisons même entrer par la porte de la langue française. On peut penser par exemple au jeu d'évasion. J'aime beaucoup cette activité. On entend beaucoup escape game, escape game. Escape game est rentré sous jeu d'évasion, ce qui permet aux gens qui le cherchent dans l'édition numérique de le trouver. Sans pour autant donner l'anglicisme en premier.
Bernard Cerchellini.
Ces anglicismes nous frappent, nous choquent, nous les retenons. Ils sont souvent véhiculés par la publicité et c'est pour cela qu'ils choquent. Mais il faut raison garder. Si l'on prend l'ensemble des mots rentrés dans le Petit Larousse depuis 20 ans, 15% seulement sont d'origine étrangère. Et il y a, outre les mots anglais, des mots espagnols, chinois, ainsi de suite. Deuxièmement, certains mots ont une vie très très brève et ne rentrent pas dans le dictionnaire car ils font trois petits tours et s'en vont. Nous ne faisons rentrer dans le dictionnaire que très peu de mots anglais qui sont malheureusement bien attestés, bien fréquents. Et je remarque que l'Académie française vient de faire rentrer, j'ai sous les yeux le fascicule S, Shaker, Slidecar et Slam.
Ah oui, mais j'étais pas là. Donc,
ils sont toujours tard.
mais donc vous faites entrer des mots. tous les ans. Alors nous interrogerons sur ce rythme. Mais si vous faites entrer des mots, vous en faites sortir. Parce que sinon, votre dictionnaire, il va devenir petit, il va devenir bouffi. Et bouffi et obèse. Donc vous voulez pas un dictionnaire, un Robert obèse de langue française, ni un Larousse obèse. Donc, quel choix préside à l'exclusion des mots, Bernard Cerchinini?
Dans son roman La vie mode d'emploi, Georges Perec a inventé un personnage, un pauvre homme, nommé Albert Sinoc, qui fait un métier dur. Il est tueur de mots chez Larousse. Son métier consiste à relever les mots qu'il faudra faire disparaître dans la prochaine édition. Ah. C'est un personnage de fiction. Il n'y a pas de tueur de mots. Nous ne faisons disparaître aucun mot. Sinon, toutes les fois que nous faisons une refonte de dictionnaire, c'est-à-dire tous les 10 ou 15 ans. Et nous le faisons avec précaution et chagrin. Car, comme disait Alain Rey, un mot n'est jamais mort. Il est dans la littérature. Il peut revenir. Regardez le retour de Écouvillon pendant la pandémie du Covid. Donc un mot n'est jamais mort, un mot peut revenir, la maille est revenue dans les cités après plusieurs siècles d'absence. Donc nous sommes très prudents. Nous le faisons à l'occasion des refontes, et encore une fois, avec grande sagacité. Exemple, la dernière fois, il y a 15 ans, nous avions Minitel et Minitélé. Le verbe Minitélé n'est pas très fréquent, nous l'avons fait disparaître. Nous avons gardé Minitel, qui peut être se retrouver dans un article de presse ou dans un roman. Donc nous jouons sur la typographie, l'épaisseur du papier, les illustrations, pour faire entrer le plus de mots possible.
Et en faire sortir le moins possible.
Le moins possible. Albert Sinoc n'existait pas.
Ah bon? Est-ce qu'il existe Robert, Gerline Moinard?
Non, il n'y a pas de tueur de mots Robert non plus. Nous avons une politique à peu près similaire là-dessus, avec un avantage pour nous au Robert, c'est que nous avons plusieurs dictionnaires, dont des dictionnaires numériques, notamment le grand Robert. Vous me parliez, Monsieur Finkielkraut, tout à l'heure, de l'adjectif flave que vous avez trouvé dans une de vos lectures et qui n'était ni dans le petit Larousse ni dans le petit Robert. Ce mot, il est dans le grand Robert.
Il veut dire jaune, hein?
Voilà, qui tire sur le jaune. Donc ce mot, vous pouvez le trouver dans le grand Robert. Les mots les plus anciens sortis de l'usage figurent dans le grand Robert, mais un grand nombre de mots anciens, un peu vieillis, restent malgré tout dans le petit Robert. Nous faisons... C'est extrêmement rare que nous fassions sortir des mots du petit Robert, parce qu'on les trouve dans la littérature. Et nous mentionnons simplement, avec ce que nous appelons des marques d'usage, ce mot est vieilli, ce mot n'est plus employé.
Alors, je lisais cet été... Une vieille maîtresse, roman enchanteur de Babet de Réville. Et j'ai fait l'expérience de trois mots que je n'ai pas retrouvés, ni dans le petit Robert, ni dans le petit Larousse, je n'ai pas le grand Robert. Premier mot, aliciante. Son ondoyante taille, par de la Vellini, profilait d'aliciantes ombres sur les draperies qu'elle éclairait en passant. Deuxième mot, la laideur impressive, audacieuse et sombre, toujours de Vellini. Et troisièmement, son corps flave. Alors il est vrai que dans vos dictionnaires, on trouve flavescent qui tire sur le jaune. Et la couleur jaune du corps de la Vellini est très souvent mentionnée dans le livre. Mais il y a quand même aliciante, flave, impressive. Donc je me dis bien que ces mots-là ont dû figurer dans le dictionnaire un certain temps. Ils en ont disparu. Bernard Cerchinini.
Oui, ça peut se vérifier, bien sûr. Je rappelle que le premier dictionnaire de ce type a été fait par Larousse lui-même en 1854 et que nous publions le Petit Larousse depuis 1905. Et nous avons publié il y a quelques temps un livre fait de mots disparus du Petit Larousse. Mais je rappelle que le Petit Larousse, comme le Petit Robert, sont des dictionnaires usuels qui reflètent la langue générale. Ils regroupent environ 80 000 entrées. Donc, on ne peut pas garder très longtemps un adjectif fin de siècle qui se trouve chez Huysmans ou Barbet d'Aurevilly. C'est la langue générale. Mais par ailleurs, je rappelle que vous pouvez aisément prendre un abonnement au Grand Robert ou accéder gratuitement sur votre téléphone au trésor de la langue française informatisée ou au nouveau dictionnaire des francophones en accès libre et gratuit.
Bon, mais merci beaucoup de toutes ces informations. Mais comme je suis un handicapé informatique, je ne suis pas sûr d'être capable de m'en servir. Alors, simplement, vous avez l'un et l'autre une édition annuelle de votre dictionnaire. C'est un rythme effréné et chaque année, vous attirez le chaland, excusez-moi l'expression, avec les mots nouveaux. On vous dit, voilà les mots qui entrent, etc. Donc, alors, petit point, pour revenir à nos sujets précédents, j'espère personnellement que job dating n'entrera pas dans le dictionnaire, alors que c'est des séances de job dating qui ont été organisées par le ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas rien, parce qu'on a entretien d'embauche en français. Donc on n'a vraiment pas besoin de job dating. Mais autre chose, j'imagine que je suis au Larousse et au Robert et que je m'occupe de la communication. Ça n'arrivera pas, chère Annemona. Rassurez-vous. Mais je me dis, moi, pour attirer le lecteur, je vais trouver quelques mots rares, ou peut-être qu'il a oublié, ou peut-être qu'il ne connaît pas. Et je dirais, vous voulez savoir ce qu'est un sigisbé, un sycophante ou des opimes, lisez le dictionnaire. Le sigisbé, je le rappelle, c'est un chevalier servant, le sycophante, un délateur, un mouchard. Les opimes, ce sont des riches dépouilles, ce que je trouvais d'ailleurs aussi chez Barbier de Révis, mais qui se trouve effectivement dans vos deux dictionnaires. Ça peut attirer les gens, disant, ah oui, c'est vrai, moi je sais plus, sycophante, j'ai un peu oublié, c'est vrai que je le lis parfois, mais je ne sais pas. Mais vous ne jouez jamais sur cette corde du passé, vous jouez la corde du nouveau, et en plus, un rythme annuel. Pourquoi, Bernard Sacchidini?
Oh, alors, d'abord parce que c'est une tradition. Depuis 1905, nous publions un dictionnaire papier tous les ans. Et le Petit Larousse, comme le Petit Robert, c'est important. Souvent, c'est le livre dans une famille. Vous savez, la France laïque a une religion d'État. C'est la langue. Et c'est une religion du livre. Le dictionnaire, d'ailleurs.
Bien sûr, mais je...
Et donc, c'est très important.
Je suis un grand observant de cette religion.
Mais nous aussi, naturellement. Et c'est important qu'il y ait un dictionnaire papier qui sert à débattre, qui sert à vérifier les mots courants, qui sert à jouer au Scrabble, qui sert à vérifier une orthographe. C'est très important. Donc, nous gardons ce rythme, le dictionnaire papier. Bien sûr, nous sommes ouverts au numérique, nous pouvons compléter, ainsi de suite. Mais c'est important. Alors, nous rappelons tous les ans qu'il y a du nouveau. En effet, pour des raisons commerciales, il faut rappeler que cette édition se distingue de la précédente. Mais nous n'abattons pas le chaland comme vous le dites. Par exemple, l'an dernier, et Robert a fait de même, nous avons beaucoup insisté sur les créations liées à la pandémie. Pratiquement pas d'anglicisme, des mots nouveaux, reconfinés, déconfinés. Et nous avons montré l'an dernier la vitalité, la créativité de la langue. Et cela nous a attiré beaucoup de ventes. Nous avons montré que le français était vivant et avait su résister à la pandémie. Donc nous avons certes une communication, mais elle n'est pas, comme vous le pensez, du côté de l'attirance par les anglicismes. D'autant plus que, je le répète, nous faisons entrer très peu d'anglicisme. Et l'an dernier, nous avons fait rentrer spoilier, nous aussi, en disant « Oui, mais nous avons fait rentrer aussi divulgâché. » Et divulgâché, c'est très bien.
Ah ben, voilà, nous sommes d'accord. Géraldine Moinard.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est que, bien sûr, nous communiquons sur les mots nouveaux, sur les nouvelles entrées, mais parce que c'est ce qui intéresse la presse, et la presse nous le demande. Quand nous essayons d'autres formes de communication, de communiquer par exemple plus fréquemment, voilà, plusieurs fois dans l'année, ça ne prend pas quand nous communiquons sur les mots plus anciens. Ce n'est pas ce qui intéresse les médias. Donc les médias prennent aussi, et on le voit quand on leur envoie un communiqué de presse assez détaillé, détaillant l'ensemble des entrées du Petit Robert. Souvent, un média en prend un ou deux, ceux qui les intéressent, les met en avant, et on n'entend pas parler des autres. Donc voilà, ce n'est pas seulement notre fait. Nous communiquons sur les mots anciens, à notre communauté, aux personnes, nous avons des personnes qui sont abonnées à une lettre de diffusion que nous envoyons à nos abonnés pour leur rappeler certains mots anciens. Sur notre site gratuit en ligne, nous avons des mots du jour et on voit que les mots anciens, quand on les met en avant, plaisent et que les gens cliquent pour savoir, tiens, que signifie ce mot, que signifie rhodomontade, ou je ne sais quel mot ancien.
Donc, alors, ce que vous dites ne va pas me réconcilier avec les médias, mais enfin, sans doute faut-il faire avec. Et je voudrais rappeler aux médias, si tant est que certains de ses représentants nous écoutent, cette phrase de Hannah Arendt citée par Bérénice Levet dans un livre très intéressant dont je vous conseille la lecture, « Malaise dans la langue française », qui paraît aux éditions du Cerf. Hannah Arendt dit « Dans la langue, ce qui est passé à son assise indéracinable, et c'est sur la langue que se brisent toutes les tentatives de se débarrasser définitivement du passé. » Peut-être assistons aujourd'hui à des tentatives linguistiques de se débarrasser du passé. C'est, voilà, c'est pour ça, Géraldine Moinard, que Yel me mettait dans un état de légère inquiétude.
Mais ne vous inquiétez pas.
Les mots nouveaux sont rentrés voilà. dans nos dictionnaires.
Ne vous inquiétez pas, aucun mot n'a jamais déconstruit la langue.
Aucun, eh bien écoutez,
bien sûr.
Dieu vous entende.
Non, Larousse.
Larousse est revenu à je ne sais qui. Voilà. Alors, vous parliez l'un et l'autre de la créativité. De la créativité à laquelle, en effet, vous, votre rôle, et je le comprends très bien, est d'être sensible. Mais, si j'ose dire, vous venez d'être doublé sur votre gauche. Ça doit vous mettre mal à l'aise. J'ai lu un article tout à fait extraordinaire, collector, sur le site du Monde, le 27 juillet 2022, date historique. Ce sont un certain nombre de termes venus de l'argot des cités, grand oublié des dictionnaires. Et on y lit cette phrase, la chouma ou rouma, je ne connais pas la prononciation, les tesses se font agras, après ils espèrent bicrave leur dico. La chouma, c'est la honte, les tesses, ce sont les cités, agras, ça veut dire humilié, après ils espèrent bicrave leur dico. C'est-à-dire un certain nombre de mots venus parfois de l'arabe, entre dans la langue des cités et ne demande qu'à entrer dans la langue. Malheureusement, les dictionnaires, un peu trop conservateurs, dit l'article, ne les acceptent pas. Et ce que regrette également un linguiste, Jean-Pierre Goudaillé, il constate que l'argot emprunte de plus en plus à l'arabe parlé au Maghreb, et il dit que la reconnaissance par un dictionnaire relève de l'idéologie, un dictionnaire sacralise, le dictionnaire est un lieu qui interdit et qui crée des tabous linguistiques. Là, on voit se profiler le museau de la bête immonde. Cette bonne vieille bête immonde, toujours prête à rendre service. Parce que, bien sûr, on refuse par quoi? Par racisme, un certain nombre de mots qui devraient figurer dans le dictionnaire si celui-ci était vraiment sensible à la créativité. Certes, c'est aujourd'hui le langage des cités, mais si le dictionnaire les accepte, ces mots, ce sera bientôt le langage de tous, et ça participera d'un mouvement général, celui du refus de l'invisibilisation, on retrouve la question féministe, de l'invisibilisation d'une partie importante de la population. Êtes-vous sensible à cette critique, Géraldine Moinard?
Alors, la créativité lexicale des cités, elle est extrêmement intéressante. Mais vous avez employé un mot que je retiens, c'est le mot argot. Il s'agit d'argot. Ce n'est pas de la langue générale. Les mots que vous citez dans les phrases que je n'ai pas tous retenues sont des mots qui sont employés dans les cités et qui n'en sortent malheureusement pas ou très peu. Certains mots des cités vont pouvoir un jour peut-être intégrer un dictionnaire de langue générale comme le petit Robert ou le petit Larousse parce qu'ils se seront diffusés de manière un peu plus massive et qu'ils ne seront pas employés seulement dans la cité. D'où la présence de certains mots familiers dans le Petit Robert, mais seulement quelques-uns. Et tous les mots que vous citez là ne font pas partie de la langue générale commune.
Mais oui, mais on vous répondra, on les invisibilise. Alors, on nous explique qu'on invisibilisait les femmes et donc on va jusqu'à candidats et candidats, etc. Féminisation générale des noms de métiers. Alors pourquoi justement ce refus d'invisibilisation ne devrait-il pas, si vous voulez, s'élargir à cette langue créée dans un certain nombre de cités? Bernard Sacchellini.
Géraldine vient de le dire. Quand un mot issu du langage des jeunes rentre dans l'usage général, il rentre dans nos dictionnaires. Qui fait meuf d'usage général sont dans le dictionnaire. Et par ailleurs, je voudrais renverser le problème. Cette langue que vous appelez des cités, je l'appelle langue de fratrie. C'est une langue de reconnaissance des jeunes et qui est liée à un groupe humain. Et quand un mot en sort, cette fratrie en crée d'autres. Naturellement, il s'agit de rester entre soi. J'ai publié il y a 2 ans un livre sur la troncation. La troncation a été très active dans les cités. Quand tout le monde s'est mis à dire laisse béton, etc., les jeunes ont arrêté et ont inventé d'autres choses. Vous avez cité Tess. Cité, Tess, troncation inverse du verlan. C'est-à-dire qu'on a toujours, dans les cités, un pas en avant, on crée des mots qui sont des mots entre soi. Et si le mot sort, on va en créer un nouveau. Donc nous ne sommes pas à la course derrière la langue des cités. Elle a sa fonction de reconnaissance, de solidarité. Nous nous écoutons, et quand un mot en sort et qui rentre dans l'usage général, il rentre dans nos dictionnaires. Donc il n'y a pas de tabou, il n'y a du tout. Nous appliquons à la langue des jeunes les mêmes critères que pour les langues techniques, pour les langues des médecins, ainsi de suite. C'est l'usage général qui est notre repère.
Oui, mais d'un autre côté, on peut accélérer l'usage. Avec Yale, on choisit de l'accélérer. On peut le choisir aussi pour cette partie de la langue, au nom du principe d'ouverture. D'ailleurs, moi, je conseille au journal Le Monde de donner l'exemple. Il faudrait que des Schuma, Chop ou d'autres termes figurent dans les éditoriaux de Jérôme Feneglio. Là, au moins, et puis pourquoi pas France Culture, parce qu'après tout, notre devise, c'est l'esprit d'ouverture. Donc les animateurs devraient suivre des séminaires de formation à la langue de la visibilité. Donc voilà, en tout cas, je le dis aujourd'hui de manière très solennelle.
Un article estival qui ne va pas sans une certaine démagogie. D'ailleurs, il vous a fait réagir.
Oui, il m'a fait réagir, mais je le trouve quand même assez représentatif. Alors, moi, j'ai chez moi un livre que vous connaissez évidemment tous les deux, de dire tous les deux. Alors, j'utilise le masculin. Comment je vais faire? Tous les deux.
Ce que vous voulez. Votre langue vous appartient.
Voilà.
Ben non, ben,
Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Liberté d'expression.
Ah oui, mais qu'est-ce que je vous diriez à ma place? Je vous dis tous les deux, moi.
C'est du masculin générique pluriel, bien sûr.
J'y ai droit.
Mais enfin...
Vous prenez le droit que vous voulez.
Non, mais vous, qu'est-ce que vous diriez? Vous seriez Géraldine Moinard à la place que j'occupe. Vous avez 2 invités, un homme et une femme. Et comment vous sortez-vous de cette question? Est-ce que vous utilisez ce masculin générique ou est-ce que vous l'évitez?
Bien
vous-même.
Sûr,
il est dans la langue.
Il est dans la langue.
D'accord.
Si possible.
Le train est arrivé en gare, tous les voyageurs sont priés de descendre. Depuis le début de notre langue, et même depuis le latin vulgaire, c'est le masculin qui sert de neutre pluriel. Mais par ailleurs, comme je l'ai dit plus haut, il sert aussi à désigner les mâles, d'où l'ambiguïté du masculin. C'est tout.
Dans certains cas, il peut être intéressant, quand on veut mettre l'accent sur la mixité, de préciser les voyageurs et les voyageuses.
Exactement.
Certaines grandes écoles, par exemple, le font, les écoles d'ingénieurs qui souhaitent attirer plus de jeunes femmes, le font et précisent ingénieurs et ingénieures. Le CNAM, par exemple.
Et j'irai dans votre sens. En fait, il faudra enseigner davantage dans les écoles l'ambiguïté du masculin. Expliquer aux enfants que dans certains cas, le masculin générique suffit. Tous les voyageurs sont priés de descendre. Et dans certains cas, il faut distinguer les candidats. Et les candidats sont convoqués demain. C'est une question de réalité de la langue. Ce n'est pas du militantisme. C'est de la grammaire.
C'est de la grammaire, c'est du réalisme, ce n'est pas du militantisme. Alors, il y a un livre de grammaire que vous connaissez tous les deux. Excusez-moi, je recommence. C'est carrément de la récidive. C'est le livre de Grévis. C'est le livre de Grévis qui s'intitule « Le bon usage ». Est-ce que ça veut dire encore quelque chose pour vous, le bon usage? Vous, linguiste, vous qui participez à la rédaction des dictionnaires. Est-ce qu'il faut en finir avec cette notion ou a-t-elle sa place dans notre manière de penser et de transmettre la langue, Géraldine Moinard?
Vous dites le bon usage, pourquoi pas? Moi, je préfère le terme d'usage commun. C'est important qu'on ait une langue commune et qu'on puisse se comprendre. Le bon usage, c'est une position assez normative. C'est un terme qu'aime beaucoup l'Académie et c'est son rôle. Dire, ne pas dire, voilà, c'est une de vos rubriques. Et très bien, nous avons une position un peu différente parce que nous sommes des dictionnaires d'usage et non pas de bon usage. Donc nous ne disons pas aux locuteurs ce qu'ils doivent dire, comment ils devraient parler, mais nous les observons et nous disons voilà comment vous parlez, en expliquant évidemment, si c'est, les mots sont familiers, s'ils sont décriés, on précise, critiqués, pour qu'ils parlent en connaissance de cause, mais sans leur imposer quoi que ce soit, parce que nous n'avons pas ce pouvoir et nous n'avons pas le droit de nous l'arroger.
Bernard Cerchellini.
Le bon usage de grevisse, on prononce grevisse,
ah, bah voilà,
c'est écrevisse en wallon. Donc, je vous indique
le bon usage. J'adore être corrigé.
Donc, grevisse a publié, il y a longtemps, un livre dont le titre était demandé par son éditeur, parce qu'il était belge, et il voulait savoir le bon usage. Mais quand vous lisez et pratiquez ce que nous faisons tous les jours, vous voyons que grevisse donne le bon usage, mais les exceptions, l'usage général de la conversation. Et l'héritage de Grevisse a été repris récemment, à mon avis, par un ouvrage que je vous invite à pratiquer, La grande grammaire du français, dirigé par Anna Beillet, Daniel Godard.
Un ouvrage exceptionnel.
Absolument. Un ouvrage exceptionnel qui, pour chaque phénomène de langue, donne l'usage commun, le bon usage écrit, et puis les usages oraux, familiers, ainsi de suite. C'est-à-dire que le lecteur ou la lectrice est confronté à toute une série d'usages et peut librement choisir. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a un usage commun qui nous permet en particulier de communiquer avec des Sénégalais, des Québécois, des Belges, un usage commun. Et puis l'usage de la conversation, l'usage de la fratrie. Il y a toute un étalage. Il faut diriger. Voilà.
Alors, vous observez la langue, forcément, puisque évidemment vous êtes là avec vos dictionnaires, vous observez la langue, vous enregistrez les mots les plus fréquents, mais cette observation peut-elle aller de pair avec un certain jugement? Des intellectuels, des écrivaines aussi, des universitaires s'inquiètent de l'évolution de la langue. Ils pensent que la syntaxe s'effondre, on voit beaucoup sur comment, notamment chez les responsables politiques, on s'interroge sur comment sortir de la crise, le vocabulaire se rabougrit. Est-ce que vous corroborez cette impression ou non, Géraldine Moinard?
Vous reprenez là vos propres propos sur la langue. Moi, je crois que le vocabulaire ne se rabougrit pas, il est assez riche. Évidemment, certaines personnes ne maîtrisent pas le vocabulaire, ça a toujours été le cas, peut-être que c'est le cas un peu plus fréquemment aujourd'hui. Honnêtement, ce n'est pas mon sujet, donc je me garderai bien de donner mon avis là-dessus. Nous, en tant qu'éditeurs de dictionnaires, nous donnons aux gens, à tout le monde, un outil pour consulter l'orthographe des mots, le sens des mots, pour enrichir aussi leur vocabulaire. Et c'est d'ailleurs un des grands principes des dictionnaires Le Robert, donner des mots, des synonymes, des renvois analogiques, donc toute une galaxie de mots liés par le sens. On va chercher un mot, je vais chercher le mot feu, et puis je vais trouver tous les mots qui gravitent autour, ignifugé, pyromane, etc., pour enrichir mon vocabulaire. Nous sommes des outils, je me garderai bien de donner un avis sur le sujet.
Pour ce qui est du lexique qui nous occupe aujourd'hui, les dictionnaires, au contraire, nous avons été frappés pendant la pandémie par la créativité de la langue. Nous avons manqué de place pour faire entrer tous les mots nouveaux. Donc, il n'y a pas de recul du tout quantitatif et même qualitatif. Je le répète, très peu d'anglicismes pendant la pandémie. Beaucoup de langues européennes ont utilisé « lockdown ». Nous avons dit « confinement » et « déconfinement ». Donc, il n'y a aucune inquiétude. Pour la syntaxe, quand on regarde la grande grammaire du français de Anna Beillet et Daniel Godard, on voit que, globalement, la syntaxe tient. Le surcomment vous gêne, c'est un anglicisme, c'est une façon de construire directement.
Et c'est affreux, ça ne me gêne pas. L'aptitude à discerner le bout du lait, dit Hannah Arendt encore une fois, c'est l'exercice même de la pensée. Surcomment, c'est affreux. Excusez-moi.
Oui, mais vous avez trouvé
Bernard Cerchellini.
Naguère, autrice, un terme affreux, je vous cite. Donc, ce qui est intéressant par rapport à la langue française, c'est qu'on passe par l'esthétique. Le néologisme paraît affreux. Je me rappelle l'époque où on trouvait la ministre une expression affreuse. Donc, nous pouvons peut-être critiquer sur comment, qui est une syntaxe un peu raide, mais après tout, je lisais hier sur le site de l'Académie française une remarque de Michel Serres à propos de « pas que ». Nous allons faire ça, mais « pas que ». Et Michel Serres disait « après tout, c'est pas si mal, c'est bien construit, c'est rapide, personnellement, je le trouve plutôt bien », sur le site de l'Académie française.
Ah oui,
donc, encore une fois, ou bien tout le monde lâche, ou bien nous regardons les choses avec un petit peu de bienveillance. Une innovation syntaxique vous paraît laide, mais elle est peut-être très utile. Et pas que, et peut-être une souplesse syntaxique qu'il faut accepter.
Et petite poussette est peut-être l'avenir de l'humanité. Alors, je vais terminer en citant Mona Ozouf, son livre magnifique, Les mots des femmes, essai sur la singularité française, 1995, c'est-à-dire dans la préhistoire. Elle écrit que le féminisme français a résisté à cette réflexion complète du lexique et de la syntaxe qu'ont entreprise en édictant des codes de correction langagière certaines universités américaines. Les femmes françaises n'en continuent pas moins paisiblement à porter le titre de docteur ou de professeur sans éprouver le besoin de leur ajouter le montre-sexe d'un E superflu. Elle disait ça en 1995. Les choses ont beaucoup changé et le féminisme a renvoyé Mona Ozouf et Elisabeth Badinter dans les poubelles de l'histoire. Je ne sais pas si c'est un bien, mais en tout cas, en effet, c'est ce qu'observent les deux dictionnaires.
Mais Alain Finkielkraut, avant la Révolution française, on disait le roué et la louée. Après la Révolution, on disait le roi et la loi. Ça s'appelle une évolution linguistique. Et il se trouve que pendant la Révolution, le peuple avait pris le pouvoir et avait imposé sa prononciation. La langue est une évolution complète et la féminisation, c'est une bonne évolution car elle revient au fonctionnement ancien, logique de la langue.
Espérons que c'est cela et pas un signe d'américanisation du féminisme français. Mais sans doute avez-vous raison, Bernard Cerchellini. En tout cas, je renvoie les auditeurs à vos deux très beaux dictionnaires, Le Petit Larousse et Le Petit Robert 2022. Je ne choisis pas l'un ou l'autre, j'ai la chance d'avoir l'un et l'autre. Merci beaucoup Géraldine Moinard, merci beaucoup
merci
Bernard Cerchellini.
Merci.
La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Troubles dans l'identité ». Mon invité sera Paul Audy. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Florent Layani. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.